Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui en compagnie d'Ingeborg Klenion, qui est potière à Montbrun, à côté d'Amblenie.
Bonjour Ingeborg. Peux-tu nous dire comment tu es devenue potière, depuis combien de temps ?
J'étais architecte pendant une vingtaine d'années. J'étais à mon compte et ça marchait très bien. Et à certains moments, j'avais l'impression de toujours tomber dans les mêmes choses, de me répéter, de plus apprendre. Et,
tourner en rond un petit peu, en fait, c'est ça.
Et j'ai pris une année sabbatique. Pendant cette année, j'ai essayé des choses pour savoir qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui peut vraiment me passionner pour la reste de ma vie, parce que j'avais pas trop envie de continuer comme j'étais en train de faire jusqu'à ma retraite.
T'as essayé quoi ? T'as envie de nous en parler ?
Au départ, c'était un peu plus lié à l'architecture. C'était plutôt l'architecture bioclimatique. Et dans ce cadre, bioclimatique.
D'accord.
Et dans ce cadre, j'ai fait un stage pour construire avec des bottes de paille.
Des maisons, donc ?
Des maisons et des enduits en terre. Pendant ce stage, on a trouvé la terre sur le terrain. On a testé la terre pour savoir si c'était assez argileux pour en faire un enduit. Tous ces matériaux qui peuvent être très, très performants en termes d'isolation et en construction, mais qui après peuvent être retourné à la nature, tandis que par exemple le ciment et
ça reste
tout ce
que paysage,
de plastique, c'est très difficile à recycler. Donc tout sous ce matériel qui sont très naturels pour vivre dans, pour travailler avec, je trouve très très intéressant. Et donc l'enduit terre m'a mené un petit peu vers un stage de poterie. J'étais déjà un peu en train de faire du tournage, j'avais trouvé un vieux tour, donc j'étais déjà en train d'expérimenter un petit peu toute seule. Et j'ai fait un stage de tournage d'une semaine, où on tournait vraiment du matin très tôt jusqu'à soir très tard.
Journée très pleine.
Oui. Et faisait rien que tourner et apprendre. Et j'ai continué à faire ça et j'ai découvert que ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, que je voulais continuer. Donc j'ai acheté une tour et j'ai commencé à m'entraîner, à apprendre. Et depuis, j'ai fait plusieurs stages. J'essaie chaque année de faire un autre stage, parce que une fois que tu découvres la céramique, c'est tellement vaste comme sujet. C'est pas seulement la tournée des pièces. Il y a beaucoup d'autres techniques à apprendre dans le modelage, l'émaillage. C'est aussi très très compliqué. Donc j'ai continué un petit peu à me former comme ça chaque année, un ou deux stages.
Après, tu t'es lancé en fait.
Après, j'ai fait mes premières expositions un petit peu conviviales, donc des petits événements. Et j'ai fait des premières portes ouvertes pour y inviter mes amis, pour voir mes pots. Et petit à petit, ça a pris forme.
Tu t'es fait connaître et puis les gens savent ce que tu fais, aiment ton travail. Et donc, du coup, tu arrives à vendre tes pièces, j'imagine.
Oui, mais c'est un processus très, très lent de construire un réseau de gens qui s'intéressent pour ma poterie. Donc ça prend vraiment des années. Mm-hmm. On a organisé un marché de potiers à Soissons.
Avec d'autres potiers.
Avec d'autres potiers, deux buts en fait, de se connaître entre nous, de faire des choses ensemble, de ne pas rester toute seule dans nos ateliers et attendre que les gens viennent, mais d'organiser quelque chose ensemble. Et de nous montrer ensemble, de dire, alors ici, dans le Soissonnais, il y a des potiers, il y a des céramistes, et c'est intéressant, et de sensibiliser aussi le public pour de la céramique, en disant, mais bien sûr, tu peux acheter un pot industriel, un mug, ou une tasse, ou une théière, mais c'est pas la même chose que de voir dans une chose faite main. Et comme ça, on essaie un petit peu de nous montrer, de dire qu'on est là, et de trouver une clientèle.
Et ça fonctionne là pour toi aujourd'hui ? C'est toujours difficile.
C'est toujours difficile et je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'ai un peu l'impression que les gens maintenant, quand ils cherchent quelque chose, un cadeau à faire, ils pensent plutôt à quelque chose qu'ils peuvent faire, une expérience, qu'un objet. Je connais plein de gens qui disent, mais j'ai beaucoup trop d'objets, il faut surtout que je jette des choses plutôt que j'achète des choses. Donc ça, c'est un petit peu le problème de notre société. Qu'on a tous un peu trop de choses. Donc ça, c'est un peu les questions que je me pose de temps en temps. Est-ce que je contribue pas trop à l'accumulation de choses? Mais en même temps, c'est quelque chose...
Bah, t'aimes ton travail, en fait. Donc, voilà, c'est compliqué, t'as pas envie d'arrêter non plus, quoi.
Non, mais il y a ces questions-là de où ma place est dans la société de ce moment. Et donc, ça a quelque chose à faire avec la société de consommation, la surconsommation, mais aussi l'énergie. Cuire des pots dans un four, ça
consomme beaucoup d'énergie.
Ça consomme pas mal d'énergie. Mm-hmm. Donc
c'est un vrai questionnement que tu as, toi, personnellement, là, du coup.
En même temps, j'ai
d'autres manières de faire aussi, peut-être, je sais pas.
Je suis en train d'expérimenter un petit peu sur des cuissons en température un peu plus basse. Au départ, j'ai fait surtout du grès. Donc, c'est une terre et des émaux qui ont besoin de très haute température pour être cuite. Et maintenant, cet été, j'ai découvert la terre sigelée.
Là ?
Terre sigelée.
Qu'est-ce que c'est?
Au lieu de poser une émail, la pièce est couverte avec une couche très mince d'une terre liquide qui est colorée, qui a la couleur de la terre. Sur le monde, on trouve énormément de différentes argiles, les terres argileuses, qui ont tous différentes couleurs. Donc, c'est toujours un peu dans la gamme de brun, orange, jaune. Mais quand même, il y a des nuances très, très beaux. Et ça, au lieu de mettre une émail, je mets ça sur une pièce et ça donne quand même une couche étanche. Donc, ce sont des pièces qu'on peut utiliser. C'est pas si résistante qu'un grès émaillé, mais...
Et tu peux cuire donc à température plus basse,
un peu plus basse.
De pièce.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais comme type de pièce?
J'ai fait surtout de l'utilitaire.
Donc de la vaisselle, des choses qu'on utilise tous les jours au quotidien.
Ouais, je me suis posé la question pourquoi je suis tellement attachée à ça, parce que c'est encore plus difficile à vendre ça que des choses sculpturales. Moi, ce que j'aime de la céramique, c'est de toucher l'aspect tactile. Donc je trouve, quand je fais de la céramique, j'aimerais que les gens qui achètent, qui prennent ça chez eux,
touchent leurs objets régulièrement.
Donc ne mettent pas sur une étagère pour juste regarder.
Écoute, moi j'ai acheté un petit saladier chez toi et je m'en sers tout le temps, donc je le touche régulièrement et c'est très agréable.
Donc ça, c'est un peu l'idée. Récemment, j'ai fait aussi un peu de modelage. Je suis entourée des animaux ici. Nous avons des moutons, donc maintenant on a un chat qui est logé chez nous pour l'hiver, donc ça m'inspire de faire des petites sculptures d'animaux.
Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça t'apporte, toi, dans ton corps, de travailler la terre, dans ton esprit? Comment ça te nourrit?
C'est pas toujours comme ça, mais quand je suis heureuse en faisant de la terre, c'est le moment où je disparais. Ma concentration est telle que je...
Tu ne penses plus à rien d'autre que ce que tu es en train de faire.
Mon ego disparaît, tous mes soucis disparaissent. Qu'est-ce que je fais demain? Ça disparaît. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Et c'est à cause de cette concentration. Et c'est surtout quand on fait du tournage que ça se passe. Parce que le tournage, ça a besoin de présence, de concentration, de centrage de tout le corps et l'esprit. Et sans ça, ça ne réussit pas.
Où est-ce que tu exposes, en fait? Parce que tu dis qu'il y a un marché de potiers à Soissons, donc tu vas généralement sur des marchés de potiers où il y a également des galeries, je ne sais pas, quel type d'endroit, en fait, expose tes objets?
Oui. Surtout des marchés de potiers. Je choisis un petit peu quel marché je peux faire. Ça dépend aussi des dates. Je fais quelques marchés souvent aux Pays-Bas. J'essaie chaque année d'y aller au moins une fois. Et en Belgique, parce que c'est sur la route. Mm-hmm. Il y a un centre de métiers d'art à Boulogne-sur-Mer et qui ont aussi une boutique qui ont quelques pièces à moi. Mais j'ai j'ai pas encore fait trop d'efforts pour trouver des galeries ou des boutiques. Je trouve tout ce parti du métier qui est
le commerce.
J'ai pas trop envie d'y passer beaucoup de temps. C'est très intéressant quand je rencontre les gens moi-même, mais vendre par un autre organisme.
Ça
me fait drôle que je livre mes pièces quelque part et ça part quelque part où je ne
sais pas où.
Pour moi, le plus agréable, c'est que je rencontre très souvent des gens qui me disent comme toi, « Ah, j'ai une pièce à toi que j'utilise tous les jours, donc je pense à toi tous les jours. »
Oui, exactement. Ouais. C'est assez chouette. Du coup, c'est vrai que c'est une sorte de rapport un peu intime, mais distancié géographiquement. Je trouve ça plutôt chouette. Hein.
Oui.
Et tu fais aussi des portes ouvertes, donc du coup, de ton atelier.
Oui.
Une fois par an, c'est ça, deux week-ends
Je fais toujours pendant la période de Noël, deux week-ends ou un week-end, et souvent pendant l'année, une autre fois. Il y a aussi des choses comme la journée des métiers d'art et la journée de la céramique. Ce sont des moments où on essaie toujours d'organiser quelque chose. Mm-hmm. Ici.
Et donc, tu penses qu'il y a un réseau de potiers, enfin, tu dis que dans le Soissonnais, donc il y en a plusieurs, donc vous vous entraidez régulièrement, vous allez voir le travail des uns et des autres, il y a une amitié qui s'est créée aussi.
Oui, et c'est important parce que...
C'est un soutien, en fait.
Oui, ouais, on se sent un peu moins seul et on peut échanger et on peut organiser des choses ensemble, on peut se montrer ensemble. Il y a aussi d'autres organismes qui sont plus
nationaux en fait,
où on peut adhérer, avoir des... un peu de soutien pour des choses légales ou...
Un accompagnement juridique ou des choses comme ça.
Ouais.
Okay. Et tu as un site internet éventuellement si les gens veulent voir un petit peu ton travail?
Non, le plus simple, mon site internet, c'est un nom très long parce que je n'ai pas un domaine spécial à moi. Donc, mais le plus simple, c'est de taper poterie Lapisotte.
Lapisotte, c'est PI2SO2TE.
Oui.
Ok. Et là, on trouve donc ton travail. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier qui te parlent davantage?
Maintenant, je suis en train de travailler un petit peu sur la fragilité. Donc, j'ai fait des choses avec des pieds très, très fins et très, très longues. C'est aussi un défi pour les cuire sans déformation ou d'accepter la déformation.
Ouais.
Donc, c'est un peu un jeu aussi avec les limites de ce que peut faire la terre. Je trouve très agréable parce que c'est, en fait, c'est que de la terre. Et l'émaillage, c'est toujours un ajout. Tu fais quelque chose en terre, mais tu ajoutes cette couche d'émail avec des oxydes toxiques. Tu utilises ces oxydes, surtout pour des couleurs, que tu mets des oxydes métalliques.
Oui, mais tu rechignes un petit peu, enfin, tu hésites
Oui, donc c'est toujours le moment de manipuler cette bain d'émail. Faut faire avec des gants et des protections. Et c'est...
respiratoire,
ouais,
masque ou des choses comme ça.
Oui. Ce que j'aime bien de ces techniques de la terre sigillée, c'est 100% terre, c'est très très naturel.
Et un four, ça cuit à quelle température, juste pour une information technique?
Oui, je cuis souvent deux fois, une fois juste la terre. Et la deuxième fois avec l'émail. La terre, ça cuit à 1000 degrés à peu près pour avoir une pièce qui a déjà... Ça peut casser, mais ça peut plus dissoudre dans l'eau. Et l'émail, c'est à 1260 jusqu'à 1280.
Ça se fait en deux fois, donc, du coup.
Oui.
Et tu peux mettre combien de pièces dans ton four?
Ça dépend de la taille du pièce, mais disons entre 20 et 50.
Et ça cuit pendant combien de temps?
Souvent, je fais la première cuisson de la terre dans le four électrique. Ça cuit assez longtemps parce que c'est lent, parce qu'il faut faire chauffer très lentement pour faire disparaître l'eau qui est encore dans la terre. Ça prend 7-8 heures. Et après, refroidement aussi très 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 lentement. Et le four émail, ça va un peu plus vite parce que je fais ça dans un four à gaz et ça prend 5-6 heures de cuisson.
Bon, bah merci pour toutes ces informations, Ingeborg.
Merci à toi.
On te souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Ingeborg Klenion, donc qui est potière à Maubrun, à côté d'Amblenie, dans l'Aisne. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.